Des maires écologistes nouvellement élus qui provoquent une volée de bois vert en voulant mettre fin à des événements qu'ils jugent en contradiction avec la préservation de l'environnement. Le président américain qui, face aux inquiétudes de responsables californiens sur le réchauffement climatique dans un état ravagé par les incendies, pense que ça finira par se refroidir. Un rapport de l'ONU sur les perspectives mondiales de la diversité biologique qui dresse un constat d'échec. Et le chef de l'État français qui s'engage pour la 5G contre les partisans d'un retour à la lampe à huile verbatim et du modèle Amish, le tout alors que cette semaine marquait le 6e mois du début du confinement et des réflexions qu'il a suscitées sur le monde d'après, autant de questions qui nous a donné envie d'inviter le philosophe Dominique Bourg ce matin. Bonjour Dominique Bourg.
Bonjour Caroline.
Vous êtes professeur honoraire à l'université de Lausanne, où vous vous trouvez présentement, directeur de la revue en ligne La Pensée écologique. Vous êtes aussi l'ancien vice-président de la Fondation Nicolas Hulot. Question à brûle-pourpoint et de but en blanc, faites-vous partie, Dominique Bourg, des Amish et des partisans du retour à la lampe à huile?
Alors déjà la lampe à huile, ne serait-ce que l'émission de tout à l'heure nous a montré que ça va être délicat, hein. Il n'y a pas assez de baleines pour qu'on retourne à la lampe à huile, c'est une stupidité totale. Et parler d'Amish, si vous voulez, dans un contexte où effectivement le vivant s'effondre, ou en tout cas, notamment, là, on n'assiste pas assez là-dessus, mais la base même de la vie, la microfaune des sols, les insectes, les arthropodes, au moment où effectivement on voit qu'à l'horizon de 20 ans, on n'échappera pas aux 2 degrés, parler d'Amish, je suis désolé, c'est vraiment d'une stupidité remarquable.
Stupidité alors, pour le président de la République.
Oui, absolument. Alors là, franchement, sans aucun problème. Ça fait 2 ans, si vous voulez, que les deux gouvernements Macron passent leur temps à détruire, dézinguer, défaire le droit de l'environnement. Tout simplement parce qu'effectivement, vous regardez les États-Unis, vous regardez Trump, et à mon avis, c'est le modèle plus ou moins masqué et qui va devenir de plus en plus présent et de plus en plus évident. C'est sûr que si vous réduisez les réglementations sociales et les réglementations environnementales, vous allez faire un petit peu repartir la croissance. Mais parler d'Amish à un moment donné, ou sur un sujet, la 5G, le Sénat lui-même regrette qu'il n'ait pas eu d'études d'impact environnemental, au moment où, et tout le monde est d'accord là-dessus, effectivement, la 5G, c'est pas une technique, si vous voulez, anodine. En fait, le passage de la 3 à la 4G, c'est un progrès incrémental. Là, c'est plus fort. C'est-à-dire que, en décuplant les possibilités de la bande passante, on ouvre la possibilité d'une nouvelle génération numérique. Une antenne 5G consomme 3 fois plus qu'une antenne 4G. On est pour le moment, si vous voulez, les data centers et les différents types de terminaux, c'est à peu près 4% des émissions de gaz à effet de serre au monde, avec un taux de croissance de 9%. Ce taux de croissance va être beaucoup plus fort. On l'a vu en Corée du Sud, quand vous ouvrez un tuyau, il se remplit très vite. Donc, parler, si vous voulez, de Amish, c'est faire preuve d'une espèce de grossièreté absolue, dans une situation où soi-même on n'a pas exercé son rôle de garant des droits et de la défense de l'intérêt vital des gens, eh bien parler à ce moment-là de Amish, c'est une grossièreté absolue. Et d'ailleurs, elle est bel et bien prise comme ça, et cette grossièreté s'ajoute à des grossièretés sociales antérieures. On est en voie, en quelque sorte, à la trumpisation du gouvernement Macron.
Vous y allez fort, Dominique Bourg. Qu'est-ce que ça veut dire, la trumpisation du gouvernement Macron?
La trumpisation du gouvernement Macron, ça veut dire qu'en fait, l'attitude anti-environnementale devient une ligne de politique publique. Ce qui caractérise, si vous voulez, Trump, ce qui caractérise Bolsonaro, c'est moins le cas de Poutine, c'est moins le cas d'Erdogan, c'est moins le cas de Xi Jinping, des personnages, comme vous le savez, extrêmement sympathiques et respectueux du droit. Mais en tout cas, si vous voulez, les dégâts environnementaux sont des aspects collatéraux de leur poursuite de la puissance.
Vous dites...
En revanche...
Pardon,
mais attendez, je termine simplement là-dessus. En revanche, avec Trump, avec Bolsonaro, la volonté de détruire les aspects environnementaux, de ne pas en tenir compte, c'est en fait une ligne forte et structurante de leur politique. J'ai bien peur, on va voir si ça se confirme, et je peux vous donner d'autres éléments, je vais d'ailleurs vous en donner tout de suite d'autres, qui nous montrent que ce gouvernement est en passe d'adopter cette ligne. Très récemment, il vient d'autoriser pour les aménagements en termes d'éolien, d'autoriser à publier le cahier des charges, si vous voulez, avant même que le débat public ne soit terminé. C'est une façon de dire, le débat public ne sert à rien, puisque de toute façon, on va décider de ce qu'on va faire avant même qu'il n'ait été terminé. Très récemment, et ça avait donné lieu à une très belle tribune de Corinne Lepage dans Reporter, ce qui avait été accordé au préfet pendant le plus fort de la crise du Covid, c'est-à-dire de pouvoir déroger aux règles environnementales, vient d'être confirmé. Ce qui vient de se passer sur la 5G est du même ordre. Et en fait, on commence à avoir une ligne dure, structurante, de la politique conduite par ces deux gouvernements.
On pourrait peut-être ajouter la réintroduction des néonicotinoïdes pour sauver la filière betterave. J'attendais que vous le disiez, Dominique Bourg, faire l'avocat du diable, parce que vous parlez de politique anti-environnementale et de trumpisation, ce qui me semble extrêmement fort pour un gouvernement qui, malgré tout, a installé un haut conseil pour le climat, fait de la défense environnementale le combat du siècle, a dit non au nom du climat à l'ouverture d'un accord commercial avec un pays qui veut sortir de l'accord de Paris. S'est doté d'une stratégie de lutte contre la déforestation importée, et le premier pays du G7 à transcrire dans ses lois la fermeture des centrales à charbon, a été mise à l'arrêt la centrale nucléaire du Fessenheim, a classé de 30% notre espèce maritime et terrestre en aire protégée, cet objectif a été acté, et puis a décidé de l'arrêt du projet d'aéroport de Notre-Dame-des-Landes, de la mine de la montagne d'or en Guyane, du projet Europa City, pour ne donner que quelques exemples quand même. Donc politique anti-environnementale et trumpisation, vous y allez quand même très fort.
Eh bien je confirme. Si vous voulez, ça c'est la manière française. Elle est quand même un peu plus intelligente et on a quand même des traditions qui ne sont pas celles des États-Unis où depuis 50 ans on a détruit le système d'éducation publique, etc. Vous avez quand même 45% des gens qui vont voter pour quelqu'un. Je vous renvoie par exemple à l'excellent papier dans Libération il y a 2 jours de Johan Chapoutot. Ils vont voter pour quelqu'un, si vous voulez, qui est quand même un produit de la télé-réalité, qui est d'une grossièreté infinie, etc. Vous avez 45% des gens, y compris une grande partie de l'appareil républicain, qui appuie. En France, on n'est pas encore là, Dieu merci. Mais en revanche, si vous voulez mener la politique dont je parle, eh bien, si vous voulez la mener de façon astucieuse, une des stratégies intelligentes, c'est de multiplier les hauts comités. C'est très bien, hauts comités, ça rend un rapport alarmant, dont on tient nullement compte. Mais enfin, quand même, on a bien permis à ces gens de statuer, de parler, etc. Donc en fait, c'est une politique à double ressort. D'un côté, on fait bien comprendre aux gens, non, nous n'ignorons pas le sujet, c'est pas du Trump. De la même manière, on n'ignore pas le sujet, mais en revanche, les prises de décision qu'on prend par ailleurs, sont totalement contradictoires. Et évidemment que si vous voulez, par exemple, si vous avez parlé de la réintroduction des néonicotinoïdes, je vous rappelle qu'une tonne de ces produits, en potentiel bien sûr, ça peut tuer, écoutez-moi bien, 150 000 milliards d'abeilles. On va en répandre sur les sols français, sur 450 000 hectares, on va en répandre à peu près une centaine de tonnes à nouveau.
On entend bien, Dominique Bourg, on entend bien. Mais est-ce que, au fond, ce qu'a fait Emmanuel Macron en parlant des partisans du retour à la lampe à huile, de façon très provocante, et en parlant du modèle Amish, ça n'est pas chercher à opposer plusieurs familles au sein de l'écologie. Ce qu'on retrouve d'ailleurs dans la bouche d'autres personnalités politiques, pour ne citer que lui, Guillaume Pelletier, le vice-président délégué du Parti des Républicains, qui dit, je le cite, hein, à l'heure où les extrémistes prétendent interdire la voiture le lundi, la chasse le mardi, le Tour de France le mercredi, les sapins de Noël le jeudi, nous avons besoin d'une écologie populaire qui ne soit pas punitive. L'écologie, l'approche pénitente de l'écologie, c'est aussi ce que reprend le secrétaire d'État à la transition numérique, Cédric O. Donc, deux camps, un camp, disons, d'écolos, illuminés, décroissants, qui voudraient tout arrêter, pour reprendre les mots du président, face à un autre qui serait partisan de la croissance verte, du progrès technologique, mais du progrès technologique à condition qu'il tienne compte des avancées environnementales. Est-ce que vous ne croyez pas que c'est ça, au fond, derrière ?
Alors, vous avez totalement raison, mais la conclusion est rigoureusement inverse. Prenez le cas de la 5G. Justement, c'est un progrès technologique, c'est clair, et je vous l'ai dit, même plus qu'incrémental, mais c'est un progrès technologique qui va déboucher, d'une part, sur une augmentation de la consommation d'électricité. Électricité, pour le moment, je vous rappelle que 80% de l'énergie primaire au monde est carbonée, qui va déboucher effectivement sur un surcroît d'activités extractives extrêmement destructrices, parce que l'idée, en fait, c'est de rendre obsolète toute une gamme d'objets. C'est-à-dire, on met le climat en danger, pourquoi ? Pour produire des cafetières et des casseroles connectées. Pour augmenter la voiture autonome, alors qu'entre nous, par rapport à nos villes, on a franchement tout à fait autre chose à faire. Imaginez que dans la décennie 2040-2050, eh bien vous aurez dans les différentes capitales régulièrement des pics de température qui vont s'échelonner entre 40 et 50 degrés. Vous pensez que franchement, ça va être favorable au shopping des Chinois et que c'est vraiment la voiture autonome qui va nous sauver. Donc, si vous voulez, le problème, il est très clair. Il y a une façon de parler de l'écologie sans en faire. Je dirais même, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, il y a une façon d'en parler pour qu'on n'en fasse pas. À partir du moment où on dit je ne veux pas d'écologie punitive, c'est ridicule. L'écologie punitive, eh bien, c'est les canicules, ce sont les sécheresses, ce sont les cyclones, c'est l'effondrement du vivant. C'est ça l'écologie punitive, c'est pas de prendre des mesures. Alors la chose est très claire. Qu'est-ce qui détruit aujourd'hui l'habitabilité de cette planète? Ce sont simplement nos flux d'énergie et nos flux de matière. Donc, soit vous voulez contribuer à la baisse de ces flux et vous êtes du côté de l'écologie, soit vous vous y refusez et vous trouvez toutes sortes de paravents pour finalement ne pas agir. Et là, vous n'êtes pas dans l'écologie. Donc, il y a une façon d'en parler pour ne pas en faire. C'est pour ça que je vous disais que le Haut Conseil de ceci, le Haut Conseil de cela, le fait d'avoir admis la Convention citoyenne, alors que finalement, on voit bien toutes les mesures qu'elle a proposées, à commencer justement par un moratoire sur la 5G, on les refuse les unes après les autres. C'est pour ça, c'est du Trump intelligent. Alors, vous allez me dire, c'est un paradoxe. Mais enfin, quand même, c'est justement du Trump intelligent.
Bon, pour l'instant, c'est pas les unes après les autres. Je continue d'être l'avocat du diable, Dominique Bourg, puisque sur les 149 propositions de la Convention citoyenne sur le climat, il en a accepté 146. Donc il y en a.
Attendez. C'est comme le Grenelle. Le Grenelle, il y avait 226 mesures. La seule qui était structurante, c'était à l'époque, hein, j'ai dit bien à l'époque, on peut en reparler, c'était la taxe carbone. En fait, la seule qui n'a pas été acceptée, c'était la seule qui allait changer les choses. Donc, si vous voulez, un moratoire sur la 5G, je vous l'ai dit, la 5G, c'est pas une technique comme une autre. Hein, c'est le passage à une nouvelle ère du numérique. Et je vous rappelle, par ailleurs, qu'on connaît aujourd'hui les effets du numérique, notamment, par exemple, en termes d'information, en termes de fragmentation d'information. C'est très simple à comprendre. Et on n'a pas non plus à regretter, les choses sont compliquées, mais si vous voulez, autrefois, quand vous aviez peu de chaînes d'information, on parlait nécessairement au grand nombre. Et donc, par définition, ça excluait les discours extrêmes. À partir du moment où vous permettez le développement de toutes sortes de niches d'information, eh bien, vous allez permettre à des discours extrêmes, voire complotistes, etc., d'avoir accès à l'espace public. Et c'est une des raisons pour lesquelles vous avez eu l'élection de Trump. C'est le scénario de Baron Noir. Bah évidemment. Donc et c'est ça qu'on va accentuer. Et allons plus fort. Si vous voulez, la 5G, ça va rendre possible la démultiplication de toutes sortes d'algorithmes. Or, ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire que si vous voulez, on va être passé dans la situation où il y a toutes sortes de petits gestes réflexifs de la journée pour lesquels on va vous trouver des substituts numériques. Mais c'est extrêmement grave, parce que en fait, notre intelligence, personne n'est un génie. Comment on l'exerce, notre intelligence? Par des petites actions, des petites réflexions qu'on fait tous les jours. Et l'opportunisme du numérique, c'est de nous permettre de ne plus avoir à le faire.
Donc à minima, Dominique Bourg, vous défendez l'idée d'un moratoire, comme l'ont fait d'ailleurs deux jours avant la sortie d'Emmanuel Macron, 70 élus de gauche et écologistes dans le journal du Dimanche. Au moins, vous défendez l'idée d'un débat?
Non, l'idée d'un débat, c'est évident, mais il est en cours. Non, l'idée d'un moratoire, si vous voulez, un moratoire, ça a souvent un sens quand l'on va retenir un aspect sanitaire. Je ne sais pas sur le plan sanitaire, les informations que je lis sont contradictoires. Ce que je sais en revanche sur le plan sanitaire, c'est que s'il y avait un vrai problème, de toute façon, comme on est dans quelque chose d'assez nouveau, comme on va être un niveau d'exposition, si vous voulez, à des rayonnements magnétiques qui sont relativement inconnus, hein, on commence seulement à avoir quelques expériences, mais en général, quand on a des dégâts sur ce plan-là, ils ne sont visibles qu'au cours des années. Donc c'est toute la difficulté qu'on a avec ce genre de choses. Non, la logique du moratoire, c'est essentiellement une logique sanitaire. Je ne me place pas, vous avez vu, les arguments que je vous donne ne sont pas des arguments sanitaires. Pour moi, la 5G, si vous voulez, c'était vraiment l'occasion de dire, ben non, on va opter pour un monde, c'est le cas de le dire, c'est le titre de cette émission, qui n'est plus le monde d'avant.
On vous a entendu surtout, et surtout
Dominique. Pour une sobriété numérique, ce qui est très différent.
Dominique Bourg, on va revenir sur cette sobriété numérique, mais ce sera juste après la revue de presse des idées d'Ilan Malka. Il est déjà 8h32, j'aimerais qu'on entende cette revue de presse des idées. Restez Merci. Avec nous, on parlera de cette sobriété juste après. 8h32 sur France Culture. Dominique Bourg, rien de nouveau sous le soleil entre les générations d'il y a 40 ans et celles d'aujourd'hui, du point de vue de l'écologie?
Non, mais l'analyse dont vous venez de parler, elle me semble manquer un aspect qui est vraiment important, qui ne nourrit pas nécessairement, bien sûr, une guerre des générations. Mais ce qui structure les grands problèmes globaux en matière d'environnement, à commencer par le climat, si vous voulez, c'est le temps de latence très important entre le moment où l'on dégrade et le moment où on reçoit, en quelque sorte, en effet boomerang, les effets des dégradations antérieures. Tout à l'heure, je vous disais que on connaîtrait une augmentation de la température moyenne sur Terre par rapport à la fin du 19e siècle de 2 degrés dès le début de la décennie 2040. En fait, ça, nous l'avons déjà décidé. Quand vous émettez dans l'atmosphère une molécule de gaz à effet de serre, une molécule de dioxyde de carbone, eh bien, elle ne déploie très rapidement qu'un tiers de son pouvoir de réchauffement. Les deux autres tiers, elle va les déployer au fur et à mesure des décennies. Donc, en fait, le climat d'aujourd'hui, ce sont nos émissions d'il y a 20 à 30 ans. Et nous, aujourd'hui, nous avons décidé, avec les émissions que nous avons accumulées jusqu'à ce jour, du climat que nous aurons dans 20 et 30 ans. Donc ça, c'est pas vrai de toute chose. Ça, c'est un phénomène structurant qui est important. Alors, on pourrait l'utiliser, évidemment, pour bannir les générations antérieures, mais en fait, certains représentants de ces générations, évidemment pas tout le monde, c'est les fameux boomers, font tout pour qu'on aille dans ce sens-là. C'est pas une raison pour y aller.
Est-ce que vous avez changé de point de vue, disons en quelques années, compte tenu de ce que vous évoquiez tout à l'heure, à savoir quand même les avancées extrêmement lentes, voire parfois les régressions de nos politiques en matière environnementale. Je donne deux exemples qui ont juste 3 ans d'écart. En 2017, vous écriviez un essai qui avait pour titre, et qui a toujours d'ailleurs, écologie intégrale pour une société perma-circulaire. Et puis en juin dernier, donc il y a juste quelques mois, vous avez signé un manifeste avec plusieurs de vos camarades comme Pablo Servigne, l'un des créateurs du concept de collapsologie, un manifeste intitulé « Retour sur Terre » qui propose de changer ni plus ni moins de civilisation. Est-ce que, disons, vous vous êtes un peu durci avec le temps, voire radicalisé, puisque le mot est sur toutes les lèvres aujourd'hui ?
Eh bien, de façon évidente, oui, pour une raison très simple, c'est que dans les années 90, comme beaucoup de gens, j'étais extrêmement optimiste et je pensais qu'on n'allait pas avoir la folie de laisser courir les choses. Quand vous parlez tout à l'heure de progrès, ils sont franchement, en matière d'environnement, si vous voulez, ils sont en général très localisés. Si vous regardez les grandes tendances, l'augmentation des gaz à effet de serre, l'effondrement du vivant dont je vous parlais tout à l'heure, la pollution des mers, que sais-je, en fait, vous n'avez pas de progrès, vous n'avez aucun progrès. Vous avez une dégradation continue de tous les paramètres fondamentaux. Donc, assister comme je l'ai fait à 30 ans de dégradation des paramètres environnementaux, si franchement, effectivement, vous n'évoluez pas avec cette situation, si vous ne tenez pas compte des tendances fortes dans le monde, bah, vous êtes tout simplement relativement neuneux. Hein, tant pis pour ceux qui croient encore au développement durable. Mais ça n'a absolument aucun sens. C'est pas moi qui me suis radicalisé. C'est tout simplement que ce en quoi je croyais, la maîtrise possible sur un certain nombre de facteurs, ne s'est pas produit. Donc si je continuais à y croire alors que ça ne s'est pas produit, j'aurais un sérieux problème de dissonance cognitive. Or, je m'y suis refusé. Et donc, si vous voulez, je me suis radicalisé. En un certain sens, oui, tout simplement parce que aujourd'hui, et n'importe quel technicien du domaine va vous le dire, hein, si vous voulez atteindre, comme nos gouvernements le prétendent d'ailleurs, hein, la neutralité carbone, qui en 2040, qui en 2050, il est clair que comme vous n'avez rien fait jusqu'alors, eh bien, les mesures que vous allez devoir prendre deviennent de plus en plus dures. Et si elles deviennent dures, et si on doit recourir à des mesures radicales, c'est tout simplement parce qu'on n'a pas agi pendant les 30 ans antérieurs. Donc je suis en simple cohérence avec ce que j'ai vécu. Et c'est difficile de vivre ça. Parce que, en fait, bah, ça pourrait vous plonger dans un désespoir profond. Puisque vous voyez bien qu'on se trouve exactement dans la situation d'un personnage de tragédie grecque. On a le cœur qui chante et dit, mais attention, Édipe, tu vas finir par tuer ton papa et par épouser ta maman. Il dit non, 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 et il finit par le faire. Et c'est à peu de choses près la situation dans laquelle on se trouve. D'où, justement, mon trumpisme intelligent qui est le pire des ennemis qu'on peut avoir aujourd'hui.
Vous parlez de désespérance écologique dans un article pour AOC cette semaine, Dominique Bourg, où vous dites que les raisons de cette désespérance écologique n'ont jamais été aussi lourdes. Mais j'ai envie de vous opposer l'autre raison de désespérance, qui est la désespérance, pour reprendre vos termes, qui est la désespérance économique, puisque ce qui s'est passé quand même il y a quelques mois maintenant, on est à 6 mois du début du confinement, malgré des réflexions naissantes sur les promesses d'un monde d'après, c'est quand même un effondrement économique dont on n'a pas encore mesuré tous les stigmates, tous les effets directs. Et donc, en gros, comment on fait entre une désespérance écologique et une désespérance économique ? Il nous reste quoi ? Est-ce qu'on peut réunir les deux pour créer un monde dans lequel on vive bien et disons qu'on ne consomme pas autant qu'aujourd'hui pour ne pas accentuer la crise écologique qu'on vit aujourd'hui ?
Mais si vous voulez, la réponse est assez simple. C'est-à-dire que si vous répondez mal à la désespérance économique, si vous pensez que la réponse à la désespérance économique, c'est de lever toutes les mesures de protection de l'environnement et de la santé, eh bien vous allez retrouver la désespérance économique, mais cette fois-ci, non plus dans la désespérance, mais dans un désespoir environnemental absolu. En fait, ce qui est intéressant à savoir, et là vous avez pas mal de papiers dans la littérature scientifique qui vous montrent que, en fait, on pourrait préserver les conditions essentielles de notre confort, on pourrait même vivre beaucoup mieux, c'est-à-dire avoir un bien-être supérieur si on ramenait l'économie à la satisfaction réelle de notre bien-être.
C'est quoi la satisfaction réelle de notre bien-être ?
Eh bien, il suffit de regarder par exemple un certain nombre de pays au monde où on peut voir, si vous voulez, que en restant avec une empreinte écologique qui est même inférieure à 0,8 planète, on peut satisfaire les besoins d'éducation, les besoins de santé. On peut avoir un relatif bien-être, etc. Et donc, quand on analyse à l'échelle internationale, si vous voulez, les performances sociales d'un côté et les performances environnementales de l'autre, on voit qu'on n'est pas dans une nasse, qu'on peut trouver une voie de sortie. Mais évidemment, cette voie de sortie, elle vous fait quand même tourner le dos au monde tel qu'il existait jusqu'alors. Elle vous fait avoir d'autres priorités. La première priorité, déjà, c'est une plus grande égalité. Il faut savoir que ceux qui détruisent le plus au monde aujourd'hui, ce sont les plus riches. Ce chiffre est archi connu, mais je le répète quand même, les 10% les plus riches sur Terre émettent 50% des gaz à effet de serre et réciproquement. Les 50% les plus pauvres n'émettent que 10% des gaz mondiaux. Donc en fait, il y a à la fois on devrait tâtonner, les choses sont pas simples, mais on aurait un certain nombre de repères, si vous voulez, pour réorienter nos sociétés, et on les a, ces repères. Je voudrais juste revenir à l'entretien tout à l'heure avec Nathanaël Esberg, je crois, sur la question des baleines. On voit bien avec cette question-là, comme avec celle du Covid, à quel point, si vous voulez, la situation du vivant n'est pas celle du climat. Le climat, bon, vous pouviez lire dans le rapport de 2007 que vous auriez des méga-feux en Australie en 2020. On a eu les méga-feux en Australie en 2019-2020. Le vivant, on ne sait pas, on ne peut pas modéliser, on est sans cesse surpris. Pourquoi il y a eu plus de 500% de morts à un moment donné à Bergame ? Ben, je n'en sais rien et personne n'en sait rien. Bon, donc, et on voit bien avec cette histoire de baleine que les choses sont compliquées. Bien sûr, on a un effondrement extrêmement rapide. Vous savez, beaucoup plus rapide des écosystèmes dans les latitudes nord que dans les autres latitudes. Donc pour ces baleines, c'est sans doute un choc quand même immense. Mais connaître toute la mécanique qui nous a amené à cette situation, on n'y arrive pas. Et en général, quand on y arrive, c'est toujours a posteriori. Donc là, en revanche, non, on a quelques repères. On saurait dans quelle direction aller, et on n'y va pas. Et on n'y va pas parce qu'on a affaire à des bonimenteurs. Des gens qui continuent à raconter, mais non, c'est excellent la 5G pour votre bien-être. Enfin, vous rigolez. Les gens sont pas des crétins, ils savent très bien que s'ils ont une cafetière connectée, c'est quand même pas ce qui va bouleverser leur mode de vie.
8h45 sur France Culture, Dominique Bourg est notre invité. Vous restez avec nous, Dominique Bourg, pour écouter et participer à ce dernier quart d'heure des matins du samedi ?
Oui.
Très volontiers.
Avec plaisir.
Il est 8h45.